Aujourd'hui, la voix de la rue se manifeste, en parole, en bruit, en revendication. Une parole libre et nécessaire, une manifestation pour dire, une fois de plus, que nous existons, qu'ils existent, humains comme nous le sommes tous. Désir d'être ensemble, besoin de solidarité, de reconnaissance et de visibilité, comme une prise de conscience que nos vies sont fragiles et peuvent être à tout moment bousculées, qui que nous soyons, mais qu'il est plus difficile pour certains que pour d'autres de se relever, parce que par trop stigmatisés, délaissés ou oubliés. Interdépendance des luttes avec les personnes sans papiers, les personnes racisées, les populations précarisées, nous nous organisons en cortège flottant ou en prise de parole collective pour crier avec force et agitation notre résolution à rester vivants ensemble et surtout dignement.
Stop deportation!
Nous suivons cette action, une bouteille à la mer, qui est une action revendicatrice de plein de choses qui vont mal en ce moment. On nous a dit, surtout sur Owe, ouais, pas de frontières, plus de bateaux, c'est vrai que c'est un beau message.
Owe, matelot, n'arrive
pas les bananes. Alors c'est vraiment des radeaux sur des palettes en bois. Et alors tu vois, ils ont des bouteilles pour flotter. C'est incroyable, tu veux en parler? Viens, Ilia, tu peux en parler, hein. Non, il ne veut pas en parler. Et alors ils ont mis un fumigène. Là, il y en a un qui a le Boats Not Borders. Et on entend un peu... On voit Cédric sur un kayak. Il y a un homme sur un kayak avec des lunettes de soleil rose. Là, ici, nous avons trois personnes. Je crois que c'est... Sur certains des bateaux, il y a une personne. Sur d'autres, elles sont trois, parfois deux. Et ça avance à un rythme pas très soutenu parce qu'ils sont à contre-courant, les pauvres. C'est pas évident. C'est hyper sportif. Mais il y a une très très bonne ambiance parce qu'il y a également beaucoup de personnes sur les berges qui soit tirent une corde, soit les encouragent, tiennent également des banderoles avec différents messages.
Leur radeau avec leur paillasse.
Ouais. Comme ça, en mode coquille d'huile.
Avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qui
fait. Il y a combien de gens qui ont la puissance des papiers?
Alors il est écrit « No border, stop deportation ». Alors « no border », ça veut dire « pas de frontières ». C'est pour arrêter les frontières entre les pays et d'arrêter de déporter les personnes qui viennent, qui quittent leur pays pour cause de problèmes.
On change de pont.
Alors là, les radeaux sont en train de faire demi-tour, donc ils vont dans le sens du vent, donc ils reviennent vers vous, plus ou moins, j'imagine. Là, ici, on a eu un petit stress avec Gaspard qu'on a eu tout à l'heure au micro qui commence à avoir peur parce qu'il y a vraiment beaucoup de policiers, je comprends. La police fait peur, malheureusement, c'est la réalité. Alors qu'en fait, en réalité, ils ne nous ont pas parlé à nous, ils sont juste inquiets de savoir qui organise cet événement, qui sont les responsables, c'est la question qui nous a été posée. Surtout partant de sécurité, la sécurité veut qu'on ne peut pas nager dans le canal et on ne peut pas, voilà. En tout cas, on nous dit que c'est pour une raison de sécurité. Je sais pas, je trouve qu'il y a de plus en plus nombreux. Donc, je crois pas qu'ils ont adressé la parole aux gens dans le bateau. Mais voilà, nous, on va tout doucement redémarrer. Et on va retourner vers chez vous, vers notre studio.
Savoir que les CRS ont été créés pour justement que le maintien de l'ordre soit donné à des professionnels et non plus seulement tué par des militaires pour qu'il n'y ait plus l'usage d'armes létales. Nous faisons le maximum pour qu'il y ait le moins de blessés possibles et le moins de blessés graves, ce que les gens appellent mutilés. Donc on va faire des entraînements, on va faire des armements faits pour. C'est-à-dire que quand j'entends des gens qui me disent « Oui, mais le LBD, on est un des rares pays en Europe à l'utiliser. » C'est vrai, sauf que d'autres pays, il faut voir ce qu'ils utilisent. Là, il y a d'autres pays, ils vont utiliser le fusil à pompe avec des balles comme cogne. Le problème, même, c'est que cette balle-là est semi-létale, puisque si elle rentre dans l'œil, elle peut rentrer profondément. Nos balles à nous sont là pour s'arrêter, pour ne justement pas rentrer dans le corps de la personne et le mutiler. Il y a des accidents, certes. Après, le problème aussi, c'est qu'il faut se poser la question de savoir quand est-ce qu'on en fait usage de ces armes. On en fait usage quand on est attaqué. Et quand je dis attaqué, c'est pas parce qu'on a reçu de gravillons. Quand on est fortement attaqué, on est obligé d'utiliser ces armes-là pour notre sécurité aussi. Parce qu'on est là pour assurer la sécurité de tout le monde, mais aussi la nôtre. Donc c'est vrai que quand il y a une arme qui est utilisée, il faut savoir qu'avant qu'elle soit utilisée, il y a trois sommations qui sont faites.
Elle a dit qu'elle trouvait ça très sympathique aussi, qu'elle n'avait jamais vu ça. Voilà, témoignage d'une des personnes qui travaille pour les services de l'ordre. Je vous rends l'antenne parce que je commence à être essoufflée vu qu'on est en train de monter. À vous les studios.
Coucou. Et ben voilà, on est de nouveau en antenne derrière la bouteille.
Toujours là.
Et bien moi je voulais juste un peu ce qu'on voit de là où on est, parce que là j'ai l'impression que les radeaux, au lieu d'avancer, reviennent vers nous.
Ouais. Bah oui, ils arrivent, j'ai l'impression qu'ils se rapprochent.
Alors du coup, il y a un appel pour que tout le monde revienne au point de départ pour aider les gens en radeau à remonter, si j'ai bien compris. C'est ce que Yamina disait, là, tout de suite. On pourrait peut-être décrire ce qu'on voit de nouveau. Qu'est-ce que vous voyez, les filles?
Des lumières bleues et rouges qui clignotent dans tous les sens.
Mais un peu moins quand même.
Un peu moins qu'avant, ouais.
J'ai l'impression qu'on a gagné.
Non, ça s'est un peu apaisé, ouais.
Ouais, et là, clairement, donc on les voit.
Tu vois, tout à l'heure, on était un peu confus, on savait pas très bien par où ils allaient. Mais là, maintenant, on voit quand même que l'aide. Ouais, là, c'est un peu plus clair que tout à l'heure. Je sais pas si notre vue s'est améliorée pendant l'émission, mais.
La circulation, ouais, comme elle a dit, la circulation c'est la vie sur le pont. Je vois encore un peu des sirènes, comme si ils hésitaient un peu à partir, mais.
Partez.
Bon, voilà. Bah, en tout cas, ils ont l'air de revenir et ils ont l'air
en forme.
Ils ont l'air en forme. Je suis en train d'estimer ça. Genre, on voit des flashs au loin. Ils ont l'air en forme.
Oui, en forme.
Cool, mais il ne pas, il baigne.
Oui, voilà.
Tout baigne. Exactement, tout baigne.
Ok. Et ben, peut-être
qu'on
va écouter un dernier
petit
podcast.
Bah oui, écoute, peut-être. En attendant que je trouve le podcast, il y a un petit son à faire écouter. On l'a écouté la semaine passée, c'était Fuck 12, Fuck the Cops. Et maintenant, c'est Fuck 12, Fuck the Troops.
Et puis on revient.
K47, tenta me pegar, você não aguenta colo cash. Pego minha Uzi, K47, tenta me pegar, você não aguenta colo cash. Glock carregada, bala na tua cara. Mano, tão comédia que esse boy não vale nada. Chamo no Messenger, me chamo de lindo. Ó, olho pra cara, tu só olho pro meu pé. Não quero mais nada, beat mal amada. Sabe que eu tô hype e eu tô indo pra Nevada. Minas criticando, minas me chamando. Ligo pra ninguém, solo cash tô lucrando. Ficam me ligando, ficam perturbando. Tô fazendo hit, tô cantando com meu mano. Vocês são otário, falta experiência. Trap é meu sonho, eu boto eficiência. Mano, tô cansado, mano, tá ligado. Tô pronto pra mais um, eu te bato e eu te esmago. Sabe que eu tô doido, não mexe comigo. Se tu me zoar, tu vai conhecer o perigo.
Roubei tua cena, roubei o teu hype. Cravejado no pescoço, segue o baile. Foda-se, eu não ligo, cheio de inimigo. Bala nesses pulsos, não fala comigo. Roubei o seu beat, ide atrás de hit. Roubei tua rima e também a sua beat. Me fode comigo, não sou talarico. Ela te largou porque eu sou um jovem rico. Mano, tu é feio, parece até um urubu. Pega sua pique, mob, enfia no seu cu. Mano, minha mob tá sempre na frente. Vejo minha bala atravessando o seu dente. Você não é chique, eu tô sempre chique. Seu grill de plástico é do Mercado Livre. Vê se pega essa, não toca na peça. Miro na sua cara e o tiro vai na testa. Volta pra sua casa, tiro vai rajada. Alp na sacada, Glock carregada. K47, 30 tiros na sua cara.
Pego minha Uzi, K47. Tenta me pegar, você não aguenta com o cash. Pego minha Uzi, K47. Tenta me pegar, você não aguenta com o cash. Glock carregada, bala na tua cara. Mano, tão comédia, por si boy não vale nada. Chamo no Messenger, me chamou de lindo. Mal olhou pra cara, tu só olha pro meu.
Quand je vais vous lire un petit discours que la coordination a écrit, permettez-moi de vous dire que nous avons fait une étude et des recommandations qui invitent aux futurs responsables de l'État belge au niveau régional, fédéral et européen à trouver une solution durable, raisonnable et digne d'un État de droit à la situation des femmes, hommes et enfants sans papier qui vivent ici depuis tant d'années. Plusieurs éléments politiques récents nous semblent encourageants. La signature du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, fin 2018, le retrait du projet de loi sur les visites domiciliaires, deux avis du Conseil d'État sur les quotas à l'office des étrangers et sur la suspension de l'enfermement des enfants de sans-papiers et la position des partenaires sociaux au sein du Conseil économique et social bruxellois et d'Actiris indique une volonté de changement de cap de politique migratoire dont la coordination se félicite ici. Cette prise de conscience et la volonté politique doivent davantage se développer et être plus manifestes encore. La Belgique doit montrer l'exemple à l'Europe en faisant l'expérience d'une autre politique d'asile et migration en prenant en compte les aspects positifs des migrations, contrairement aux politiques populistes qui fracturent la société. Pour garantir une union qui fait la force, la Belgique se doit de tourner le dos à la discrimination, à la méfiance et à la peur. Loin d'être un fardeau pour la sécurité sociale, en ayant des droits comme tous les citoyens, les sans-papiers contribueront à la résolution de plusieurs problèmes de la Belgique. Les migrants jouent d'ores et déjà un rôle important dans ce pays, dont le vieillissement de la population est incontestable. En offrant de la main-d'œuvre, en s'occupant des personnes âgées, ils contribuent au bien-être général. Pour garantir les pensions, pour lutter contre la fraude sociale et le déficit de la sécurité sociale via le travail au noir. La prise en compte des travailleurs migrants sans papier est indispensable, ce qui revient à dire que, dans l'intérêt de la dynamique de la croissance au pays, le prochain gouvernement devra s'activer à l'intégration des sans-papiers dans l'état de droit belge. La répression des sans-papiers faite jusqu'alors ne rapporte rien à la société, ni aux citoyens eux-mêmes. Bien au contraire, elle ne crée que des clivages dans la société, augmente l'effet de racisme et le climat de peur, et favorise les violations des droits humains. Laisser les personnes sans papier déjà vulnérables, exposées à tous les risques et jusqu'alors défavorisées sur le plan de l'éducation, du logement, des services de santé, de la vie sociale et sur le marché du travail. C'est légiférer à tirer les conditions de tous les Belges vers le bas par la perte aussi de leurs droits. Ne pas agir en faveur de ces personnes sans papier, c'est refuser d'atteindre les objectifs de lutte contre les inégalités, l'exploitation, les violences faites aux femmes et la pauvreté. Les personnes sans papier, les organisations locales et les citoyennes se sont mobilisées pour que des communes et des villes deviennent hospitalières. Toutes ces mobilisations ne doivent pas s'arrêter dans les déclarations d'intention votées dans des assemblées. Il faut dès lors passer aux actes pour concrétiser le vivre ensemble avec une politique accueille et intègre dans le vrai les migrants dans l'état de droit de sans discriminateur aucune. La politique d'asile et d'immigration ne doit pas être une politique du tri. Lorsqu'on parle des sans-papiers, on parle des vies humaines, données de tout droit. La solution à le problème est une décision politique qui assurément place ceux et celles qui l'auront prise de bon côté de l'histoire. Sans atermoiement, une régularisation des sans-papiers s'impose dans un bref délai. Celle-ci est cruciale pour notre avenir à tous. Elle est gage d'un climat de paix sociale. Pour ce faire, la coordination des sans-papiers demande au gouvernement, d'après le 26 mai 2019, le changement de la loi sur les étrangers de 1980.
Oui. Désolé, c'est pas lui,
non. Car cette loi, dans ses articles 9 bis et 9 ter, pas clair, crée des sans-papiers, des sédentaires et les expose à une vulnérabilité inacceptable dans un pays qui se dit de droit. Après les élections de mai, une majorité parlementaire peut et doit être prouvée. Par exemple, en partant de la proposition de la UDEP, qui nous semble une base sur laquelle la coordination et l'ensemble des partis politiques pourraient s'accorder. Les sans-papiers revendiqueront cette régularisation une fois encore, et nous espérons la dernière lors de cette manifestation que nous tenons aujourd'hui. La coordination des sans-papiers invite tous les citoyens, les démocrates, les communes hospitalières, les associations, les syndicats, les mouvements et les partis politiques à s'asseoir à cette manifestation, à s'associer à cette manifestation et à utiliser le vote le 26 mai prochain pour un gouvernement qui régularise les sans-papiers. Régularisation, régularisation,
myself. How about that? Mayhem is so amazing. My celebration at every AM fortified live with the incantation of my similar vibes to fly. The inability to feel every will never be I.
When we come to it, we must confess that we are the possible. We are the miraculous. The true wonder of this world.
Tu as sorti un livre, enfin pas vraiment toi, mais voilà, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Paroles données, paroles perdues.
Tout à fait.
Qui a été fait avec la Strada, c'est ça ou je...
Qui a été fait au début en collaboration avec la Strada, qui est devenue Bruxelles récemment, donc qui est le centre d'appui au secteur de l'aide aux personnes sans-abri. Et on a fait le livre avec le collectif Siloge, et on est trois, et on a vraiment travaillé de manière très horizontale à trois sur ce projet.
Qui sont les trois personnes du coup
Ben donc c'est moi et puis c'est Emmanuel Laurin qui est archiviste et Margot Dobby qui est cinéaste. Et donc on se connaît par ailleurs. Moi en fait, j'ai peut-être pour dire un petit peu le début du projet. Moi j'ai travaillé à la Strada à l'époque qui organisait des espaces de parole entre personnes sans abri et travailleurs sociaux dans plusieurs lieux d'accueil bruxellois. dans l'idée de comme on en discutait avant, de parler, c'est déjà agir. Et donc, c'était vraiment des espaces de parole qui visaient à écouter, à prendre vraiment au sérieux la parole des personnes, des premiers concernés, et à instaurer plutôt un travail collectif dans un milieu où l'aide sociale est fort individualisée. Et l'animateur a filmé ces réunions pendant plusieurs années. Il avait toute une idée de la caméra comme dispositif qui permet aussi de cadrer la parole. On se raconte peut-être moins personnellement, on fait plus attention à ce qu'on dit, mais quand même on parle de nos situations respectives. En parlant ensemble, on se rend compte que ce qu'on vit n'est pas isolé, enfin qu'on est plusieurs, et donc potentiellement on politise davantage la situation qu'on vit. Bref, donc un objectif d'empowerment plutôt personnel et un objectif plus politique de récolter cette parole et de, dans l'idée qu'elle puisse transformer les politiques, enfin de faire un relais vers le politique, de faire un relais vers les structures et de transformer l'aide sociale aussi en prenant en compte ce que les gens ont à dire. Moi, j'étais au courant de l'existence de cette archive audiovisuelle qui était très conséquente parce qu'il y avait 70 réunions qui avaient été filmées, donc ça faisait 140 heures. Et on trouvait que c'était une matière intéressante et que c'était en partie l'histoire d'un secteur, que c'est surtout une parole qui est rarement entendue, parce que c'est les gens eux-mêmes qui discutent de ce qui les concerne. Et voilà, Emmanuel Laurin, qui est archiviste, il trouvait aussi que c'était super intéressant parce qu'il s'intéresse à l'action de l'archive, etc. Et donc on a décidé de travailler en collaboration avec la Strada sur ce matériel. Voilà.
Ça a été dans des lieux différents, en fait, que cette caméra, c'était pendant combien de temps déjà qu'ils ont...
La caméra a été introduite dans le dispositif, entre guillemets, en 2008, mais les espaces de parole existaient déjà depuis 2001. C'est presque 20 ans d'espace de parole, en réalité, ce livre, même si c'est plutôt sur la dernière partie.
Que vous avez pris les...
Sur les 8 dernières années.
D'accord.
Et ça avait lieu dans plusieurs lieux d'accueil, plusieurs centres de jour, donc il y avait Jamais sans toi, la consigne article 23, je ne sais pas si tu vois... Latitude Nord, le centre de prévention de Scarbeck, au SAMU social aussi d'ailleurs, à Pierre d'Angle, et à la maison d'accueil L'Escale, voilà.
C'était des rendez-vous réguliers où les gens étaient invités à venir parler, ils savaient qu'il y avait ce rendez-vous-là et ils venaient clairement pour ce rendez-vous-là.
Oui et non, mais c'est une bonne question, la question du calendrier, parce que toutes les réunions qu'on a retranscrites sont étaient organisées par Jean-Louis Linchamp, qui était travailleur social, qui est toujours, pour qui il y avait vraiment l'importance d'inscrire les réunions dans une temporalité, pour que les gens sachent d'emblée à la réunion qu'il y aura une prochaine réunion et qu'on pourra reparler, etc. Donc il y a clairement certaines personnes qui revenaient chaque fois parce qu'ils ont pris goût au dispositif et que ça permettait des choses que ça permettait pas par ailleurs dans la structure ou voilà. Et puis d'autres aussi qui sont là, on arrive le jour même et les gens, les travailleurs du lieu leur ont dit qu'il y aura un espace de parole, ils savent pas ce que c'est, ils sont assis là et donc l'animateur arrive, il se présente, il dit pourquoi il est là et ceux qui veulent se mettent autour de la table et participent à la réunion. Tout d'un coup, l'animateur met ensemble des personnes qui ne vont jamais en réunion avec des gens qui passent parfois leur temps en réunion, c'est-à-dire des travailleurs sociaux qui ont l'habitude ou des chargés de projet, etc. Et puis de l'autre, des personnes de la rue qui vont pas en réunion avec des codes évidemment différents sur la prise de parole, sur et qui invitent aussi les travailleurs sociaux de s'expliquer sur leur travail aux personnes qui avec lesquels ils travaillent. Donc il y a tout un enjeu de, tiens, comment est-ce qu'on dit ? Est-ce que finalement la façon dont on en parle, c'est vraiment très juste ou pas ? Comment, en partie, on rend des comptes aussi sur les objectifs de notre travail ? Donc c'est, voilà.
Oui, c'est un peu un lien qui est intéressant avec La Voix de la rue, qui du coup est également une émission où les gens se retrouvent en présence des problèmes de chacun et vont discuter sans filtre et parler de leurs expériences, leurs attentes, leurs difficultés. Je trouvais ça intéressant, à un moment, on parle de la dénomination du mot qu'on met sur les personnes qui sont sans-abri, que ce mot, en fait, identifie fortement la personne et que, suivant comment on le choisit, effectivement, il a eu une incidence. Comme on en discutait à Douche Flux, on les appelle les immenses, justement pour sortir de ce vocabulaire-là.
Ce qui est sûr, c'est que dans le projet du livre, de vraiment mettre la parole des gens en valeur, enfin de la prendre au sérieux, de, enfin nous on s'efface pas mal, c'est aussi pour ça qu'on signe le livre avec un collectif, pas avec nos noms, parce que voilà, c'est de leur parole. Et je pense que de lire ce qui est écrit, ça, il y a quand même un rapprochement pour les personnes qui connaissent pas la situation de ces personnes, qui peuvent avoir des préjugés, des stéréotypes, et qu'on était quand même très attentif à la question de la représentation. Donc tu parles des mots, ben clairement les mots disent quelque chose, et souvent en fait on confisque aux personnes que ça concerne la façon dont ils veulent se définir. Et donc on dit les SDF, les sans-abri, les mal logés, les bénéficiaires, les clochards, les naufragés. Typiquement, il y a Patrick de Clercq, je ne sais pas si tu vois, cet anthropologue, psychanalyste, qui a écrit une ethnographie des naufragés à Paris et qui en fait propose une lecture du phénomène qui est très apolitique et très stigmatisante en partie, très essentialiste, comme s'il y avait une essence du sans-abri qui est très différent, enfin qui serait différent des autres hommes, ce serait un homme sans lien, sans lieu, sans attache, voilà. Une image très psychologisante en fait de la question. Et nous, on ne voulait pas du tout aller là-dedans, parce que c'est un peu ce que les médias font aussi. C'est vraiment le cliché du vieux sans-abri avec la barbe.
La bouteille.
Oui, voilà, exactement. Soit qu'il y a eu des erreurs de parcours et il est victime de ce qui s'est passé, soit en fait il est jugé comme responsable de sa situation parce qu'en fait il n'a jamais travaillé, il est au chômage, il est soi-disant fainéant, ou il a des fragilités psychologiques. Et donc si on présente toujours les facteurs individuels, ben on fait comme si c'était une situation qui était inévitable. Or, les causes du sans-abrisme, enfin, c'est un peu horrible ce mot sans-abrisme, ce concept entre guillemets, mais les causes du fait que les personnes dorment en rue sont multiples et avant tout elles sont structurelles. Et c'est lié aux politiques du logement, aux politiques de l'emploi, à la gentrification, enfin à plein de facteurs multiples, à la précarisation générale, et qu'en fait la majorité des gens qui sont à la rue, c'est plutôt, si on parle en termes de classe sociale, vraiment la frange la plus basse de socio-économiquement, point. Et donc nous on utilise le terme personne sans abri dans le livre, mais en tout cas dans les extraits qu'on a choisis, il y avait quand même cette réflexion sur l'image, la représentation, beaucoup, les mots, l'identité, et c'est un thème qui revient tout le temps dans les réunions aussi. L'image de soi, la reconnaissance sociale, sur la honte d'être considéré comme un moins que rien, sur le fait qu'on nous manque de respect, sur le fait qu'on passe à la gare et que les gens mettent leurs mains devant leur bouche, genre comme si on pue. Enfin voilà, c'est vraiment une source de grande souffrance, je prends. Enfin, en tout cas, c'est de ça qui témoigne, et de dire on a envie d'être considéré comme des gens normaux, en fait, parce qu'on n'est pas différent, on est juste dans une merde matérielle, comme on évoquait tout à l'heure. Non sans exigence. Donc, voilà.
Ce que j'ai trouvé très touchant, c'est qu'il y a énormément d'humanité. Il y a énormément de poésie, en fait, j'ai trouvé aussi. C'est intéressant de lire ce livre pour sortir des clichés. Moi, je sais, parce que je travaille avec des gens et qu'on fait de la radio, que ces gens-là, ils savent parler. Il y a des réflexions qui sont quasi philosophiques dans la manière qu'ils ont de porter le regard sur la société, de porter le regard sur la manière qu'ont les autres de les voir. Et ça, c'est vrai, comme tu dis, ça revient vraiment souvent. Le système dans lequel ils sont obligés de rentrer... Ouais. Et qui est très à la fois culpabilisant, à la fois un espèce de truc de réinsertion, mais un peu malsaine, de « ah, je dois aller là ». Enfin, j'ai beaucoup aimé le passage sur le tirage de cartes, parce que du coup, vous avez créé ça comme un glossaire, et c'est très intéressant, parce que les mots sont très imaginaires, en fait, vos titres, on va dire, de présentation des interviews sont très imaginaires. Et donc, le tirage de cartes, il est vraiment intéressant, parce que c'est les gens qui racontent comment on va avoir accès, si je me rappelle bien, à un lit, en fait, le soir. Et donc, suivant quelle carte on va tirer, etc. Et c'est très poétique dans cette manière de dire, bah, finalement, c'est le sort un peu à chaque fois. C'est un peu comme on ne sait jamais ce qui va se passer. Finalement, bah, nous, on n'a pas la chance de choisir ce qu'on va pouvoir faire. Finalement, le luxe dans la vie, c'est aussi de pouvoir choisir. Il y a un moment, quelqu'un qui dit ça. En vrai, on a l'impression que juste je suis là toute la journée à la gare, mais en fait non. Je me fais réveiller le matin par des personnes qui m'ont donné des coups de pied pour me réveiller. Et puis ensuite, si je veux survivre, ça veut dire être à telle heure là, être à une autre heure là, en même temps de trimballer mes affaires, trouver des solutions. Et en vrai, ils ont un agenda
de fou.
De fou.
De ministre,
en fait. Et les gens n'ont absolument pas conscience survivre dans cette, dans cette condition. C'est pas juste attendre que les gens vous donnent l'aumône, caler dans un coin. Non, c'est tous les jours faire des démarches avec ce côté administratif qui est énorme et qui est en plus, t'en parleras sûrement mieux que moi, mais c'est les difficultés entre les envies et les possibilités qui existent pour faire avancer un dossier, le temps que ça met, là où eux, ils ont envie effectivement d'avoir des résultats un peu rapides.
Bah, c'est vraiment, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est qu'en fait, ce dont tu témoignes et dont t'en parles beaucoup dans les réunions, c'est un vrai travail pour s'en sortir. Et il y a des absurdités administratives, institutionnelles, enfin il y a des violences institutionnelles, il y a des absurdités législatives, etc., qui font qu'en fait, plus, enfin il y en a un qui dit ça, plus t'es au fond, plus tu fais des démarches. Comme si la misère se mesurait à la quantité de démarches à entreprendre. Il y a un participant aussi qui dit... voilà, j'ai été à cette antenne-là, puis à cette antenne-là, on me renvoie à cette antenne-ci, et puis je vais à rue machin parce qu'on m'a demandé d'aller dans telle rue pour tel papier. Et en fait, chacun te renvoie à quelqu'un d'autre, il se renvoie la balle juste pour te faire tourner en rond, parce qu'en fait, soit ils ne peuvent pas t'aider, soit en fait, ils n'ont pas envie. Et il y a comme... C'est comme presque s'il y avait... pas un simulacre d'aide, mais comme si le système était fait aussi pour que certaines personnes n'y accèdent pas. Et bon, c'est quand même terrible parce que c'est un jeu de dupes presque. Et les gens sont pas dupes, justement. Ils sont fâchés, et ils sont en colère et ils ont bien raison. Et d'autres sont aussi super compréhensifs, résilients, d'une façon qui est... Enfin, en tout cas, moi, qui m'étonne et qui, tu te dis, waouh, mais quelle...
Quelle force.
Ouais,
bien sûr.
Quelle force.
On le sent vraiment. Et il y a aussi un passage sur, sur le mot « où est-ce que tu dors ?» La personne dit « Ah, j'ai l'impression que quand on me demande où est-ce que je dors, c'est plutôt est-ce que j'ai une solution à lui proposer ou pas ?» Et jamais une manière de demander si tu as bien dormi ou si ça s'est bien passé, c'est-à-dire c'est jamais quelque chose... Il y a toujours le travail qui est en fond.
Oui, parce que...
Aussi, il ne se passe rien.
Parce que tu dors à Uccle, parce que tu dors en face du Brico et qu'en fait, nous... administrativement, enfin tu vois, c'est dans ton
discussion
avec le CPS aussi, il dit ça, tu dors où ? Ben, je dors devant le Brico, et donc, le Brico, pas de chance, c'est juste à la frontière de la commune,
je
donc
rien
en
faire.
Fait, voilà, tu dois aller à l'autre CPS et recommencer tout à zéro, quoi, par exemple.
On parle beaucoup du décalage entre les discours des experts du social et le besoin de réponses un peu immédiates des personnes qui sont en difficulté. Et c'est vrai que moi, la voix de la rue, on ressent aussi beaucoup ça, parce que autant c'est un projet qui est vraiment chouette, auquel les gens participent avec vraiment du cœur et vraiment du plaisir, mais à côté de ça, il y a toujours cette... en tout cas pour moi, cette tristesse de ne pas pouvoir amener des réponses. Et il y a toujours en fond ces questions qui reviennent, qui sont assez personnelles, sur « qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Mais bon, d'en parler à la radio, c'est bien beau d'essayer de décrire aux gens ce qu'on vit, mais en même temps, qu'est-ce qui est fait ? Et ce décalage est toujours difficile à vivre, que ce soit pour l'une ou l'autre personne, parce que les réponses, elles sont jamais immédiates.
Bah, c'est vrai qu'il y a la question de l'impuissance des travailleurs sociaux, elle est aussi assez forte. Enfin, elle est très présente aussi dans les discussions. Et celle de, comme tu dis, de à quoi ça sert de parler, on a déjà... tout dit, ou voir entre nous, travailleurs sociaux, vous, là, et nous, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde, mais c'est pas ici qu'il faut les faire les réunions, c'est avec les politiques, c'est au CPS, c'est en fait, dans ce petit milieu de l'aide sociale, parfois on est sur la même longueur d'onde. Après, je pense qu'à plein de moments, en fait, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et qu'il y a plein de décalages entre les travailleurs et les usagers, et que justement, ce type d'espace permet aux travailleurs d'entendre autrement ce qui est dit. Mais clairement, la question de qu'est-ce qu'on fait de la parole, est-ce qu'il suffit de parler, voilà. En tout cas, le livre, c'est aussi une trace de cette discussion et aussi une trace de tout ce qui a déjà été dit depuis très longtemps, sous une autre forme, et à la fois de la colère, du désespoir, mais aussi de toute la force, toute cette résilience, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là. Et c'était aussi précisé dans les espaces de parole de dire « Ici, on est là pour parler en contrepoint de l'urgence de l'action, en fait. » Et que, évidemment, même s'il y a une volonté de relayer vers le politique ses discours, etc., ça se fait pas en un jour et qu'en fait, les lois se modifient très, très doucement, etc. Et donc, je pense que même aux personnes invitées à l'espace de parole, il y avait des antagonismes entre ceux qui étaient plus... qui était tout à fait pour une parole en soi, pour soi, et des usages des participants qui étaient là en se disant bah, « moi ça m'aide en fait de venir parler, j'aime bien, je trouve que c'est différent d'habitude, il se passe plein de choses, etc. » Et puis ceux qui trouvaient que ça ne servait à rien et qu'il fallait passer à l'action. Et donc après la réunion, c'était « bon, mais il faut un agenda, qu'est-ce qu'on fait, on avance. » Et donc voilà, il y a plein d'enjeux aussi de la dynamique de parole, de... comment on rebondit, qui tient le crachoir, entre guillemets, comment la parole circule, c'est tout un enjeu aussi d'animation de la réunion, d'écoute des uns des autres.
Je trouve que c'est aussi une trace historique intéressante sur l'évolution du travail social et de la considération des personnes qui sont dans le besoin, on va dire. Mmh. Considérer le bien-être général d'une personne au-delà du fait d'avoir... besoin de manger, besoin de se doucher, besoin d'avoir des adresses, besoin d'avoir une aide. Mmh. Et qu'effectivement, l'évolution va plutôt vers ça. Et j'imagine que c'est quand même quelque chose qui est très positif.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est sûr qu'il n'y a pas des modes dans le travail social, mais je dirais qu'il y a quand même des tendances et peut-être des paradigmes à certains moments. Et qu'avant, dans les années... je ne saurais peut-être pas trop dire, mais en tout cas... dans les années 90, voire même 2000, c'était fort orienté sur l'urgence humanitaire, en fait. Et qu'ici, on voit quand même un peu une transformation vers des solutions à long terme, notamment avec le Housing First, de placer le logement comme la première action nécessaire au rétablissement et de considérer les besoins, les envies de la personne comme quelque chose d'essentiel, en fait. Alors qu'avant, c'était, ben voilà, il faut mettre les gens à l'abri, point. Et en fait, on ne se préoccupe pas du reste. Donc ici, il y a clairement une évolution dans le sens de quelque chose beaucoup plus...
humain ?
Ouais, plus humain, plus réfléchi. Qui considère en tout cas les personnes comme des êtres...
avec des désirs multiples.
Exactement, qui ont des désirs multiples, qui ont des exigences.
Des personnalités différentes.
Oui, en fait, comme des personnes normales qui ont le droit à la même chose que les autres et pas à juste... cette espèce de personne à qui on peut donner un petit peu et c'est déjà bien parce que de toute façon il devrait s'en satisfaire quoi. Donc clairement là c'est hyper positif qu'il y ait une évolution en la matière.
Est-ce que les entretiens continuent?
Mais je pense que c'est un vrai enjeu pour le centre Bruxelles qui est le centre régional du coup d'aide d'urgence et d'insertion et qui vient un petit peu chapeauter la politique en la matière à Bruxelles, en tout cas coordonner les actions en la matière. Et donc c'est un nouvel organisme qui prend un peu le relais de la Stradam avec d'autres missions, puisque ça devient vraiment un centre régional, NOIP. Donc il y a, je pense, un vrai enjeu de dire, bah, tiens, quel travail collectif avec les gens va être mis en place, qu'est-ce qui va être valorisé comme action est-ce qu'il y a une envie ou pas de continuer les espaces de parole? Je pense que c'est clairement le cas et qu'ils ont cette... enfin, que Bruxelles a en tête cette dimension-là et la valorise. Et c'est pas pour rien qu'ils éditent le livre. Enfin, c'est édité chez Maelstrom, mais c'est fait en totale collaboration avec Bruxelles. Donc, ils sont partenaires du projet à 100%.
Est-ce que vous allez distribuer ces livres politiques? Est-ce que vous allez donner ce livre à Monsieur Marron, par exemple, qui aurait...
Ben, ce serait une très bonne idée. C'est vrai. Pour l'instant, on a plus fait une petite communication à la presse. L'idée, c'était vraiment de toucher un large public et pas justement d'être uniquement un livre à destination des travailleurs sociaux, etc. Donc, on aurait pu faire une sorte de rapport de recommandation qui allait prendre la poussière sur les étagères d'une administration. C'était pas le but. Et je pense que aussi Maelstrom était intéressé par le projet, parce que que c'est quand même un livre, je pense, qui peut vraiment intéresser tous les gens qui se posent des questions sur sur cette question-là, en fait. Mais je pense que ce serait une très bonne idée de l'offrir à Alain Marron, voire qu'il l'achète.
Qu'il l'achète, ça sera encore mieux. Voilà. C'est un très bel objet. On n'a peut-être pas cité la personne qui a fait les dessins, mais il y a de jolis encarts comme ça, sur, je sais pas, genre de papier calque, comme ça, qui vient en transparence. Quelle est la personne qui
a... C'est Margot qui a fait les dessins, mais on a vraiment travaillé. En fait, on a tout fait à trois.
Okay.
Donc c'était un gros travail de concertation aussi, de discussion, tant sur les extraits choisis que sur les dessins. Mais c'est Margot qui a fait les dessins. Et l'idée des dessins, c'était justement de garder un petit peu, enfin de retrouver un petit peu une trace de tout le non verbal en fait des réunions, des gestes, des mouvements. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de rendre présent à travers les didascalies, puisque les extraits sont un peu écrits comme presque comme une pièce de théâtre. En
tout à fait.
Et donc les didascalies viennent ponctuer un petit peu les entretiens.
Les dialogues, voilà, les entretiens.
Voilà, comprendre un peu la spatialisation, ce qui se joue en dehors des mots, en fait.
Faisons un peu de promo. Il est disponible où, ce livre?
Alors, il est disponible chez Maelstrom, dans une petite rue qui donne sur la place Jourdan. Chez Tulitu, à livre ouvert aussi. Et je pense qu'il va être disponible aux Yeux Gourmands et à la librairie Novembre. Voilà. Et puis, il est disponible aussi à Liège, à Rochefort, à Namur et à Tournai, je pense. Mais là, je ne me souviens plus des noms des librairies. Donc, voilà.
Merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
Je recommande ce livre chaudement. Moi, j'en ai lu que la moitié. Et voilà. Et c'est des beaux textes. On a presque envie d'en faire une pièce de théâtre. Enfin, de faire une espèce de boucle. Mm-hmm. D'avoir des personnes qui puissent rejouer... ces scènes, voilà.
Ouais, c'est vrai, je pense qu'il y a un peu de ça dans le livre.
Ouais, il y a un peu de ça dans le livre, et voilà. Et, c'est, et au-delà de l'émotion, enfin, voilà, on apprend énormément de choses, et ça fait du bien, vraiment. Ouais. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Réalité. Dennis. Ce qui est triste chez moi, c'est que j'ai travaillé 6 ans en Grèce. J'ai travaillé pour 2 firmes textiles. Je dors parfois à l'aéroport. J'ai travaillé pour une firme qui fabriquait des jupes de dames. Et quand je vois les hôtesses de l'air, qui sont de très jolies et de très gentilles filles, comme ça, déambuler à l'aéroport, ça me fait mal au cœur car j'ai fabriqué leurs vêtements. Et maintenant, moi, je suis là, SDF. Culpabilité. Saïd. Les associations, ils nous connaissent, ils savent. C'est les politiques qui nous prennent pour des gens en marge de la société. Ils se disent dans leur tête, pourquoi eux, ils n'ont pas réussi? Nous, nous sommes les victimes. En fait, les coupables. Nous sommes les coupables. Françoise. Vous voulez dire que les politiques pensent que c'est de votre faute si vous êtes à la rue? Saïd. Voilà, c'est ça. Premier de cordée. Albert. On m'a déjà fait une proposition, mais malheureusement, je n'ai pas pu mettre l'argent qu'il fallait sur la table, donc cet hiver-ci, je suis de nouveau condamné à le vivre dehors. Ça ne me fait pas peur, parce qu'heureusement, sur cette planète, il existe des hommes qui inventent des choses fantastiques. J'ai un sac de couchage dans lequel je peux dormir jusqu'à des moins 10, moins 15 degrés, et je ne m'en aperçois pas. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Le seul inconvénient, c'est la pluie. Car dans un sac de couchage comme celui-là, on ne peut pas dormir habillé. Question d'hygiène. Il faut donc mettre une tenue de nuit. Et quand il pleut des cordes, eh bien, il faut se déshabiller complètement le matin et mettre des vêtements secs. C'est un peu laborieux. Alors je pense à des hommes qui ont fait des choses fantastiques. Des alpinistes, les premiers hommes qui ont gravi le mont Everest,
les hommes fantastiques comme Alain Hubert qui ont fait des expéditions dans l'Antarctique. Je pense à ça, moi. Je m'identifie à ces gens-là pour avoir du courage, pour ne pas tomber dans la dépression. Extrait 2. Parole donnée, parole perdue. Recueil de discussions et de paroles de sans-abri à Bruxelles par le collectif Siloge. Un livre édité aux éditions Maelstrom, disponible dans plusieurs librairies à Bruxelles, mais également sur le site de l'éditeur maelstromrevolution.org.
Dernière intervention, Monsieur Laurent Durcel, le directeur de Doucheflux, je vous en prie.
Bonjour Monsieur le Président. Donc Doucheflux, c'est une, je reconnais ici mes collègues, une jeune association qui vient en aide aux personnes sans chez soi à Bruxelles, un centre de jour qui, comme les autres, bien sûr, dû s'adapter à la nouvelle situation de crise sanitaire et c'est via cette réadaptation que nous avons changé pas mal de nos activités et nous avons décidé d'accepter l'aide que nous tendait le Parlement européen et la jeune association Les Gastrosophes pour permettre de donner à manger à notre public, ce qui n'était pas le cas avant. On ne peut pas tout faire et nous avions décidé de ne pas donner à manger. C'est un centre de jour et il y a beaucoup d'autres endroits à Bruxelles où on peut manger. On s'est adapté et je dois dire que cette crise est aussi l'occasion de mettre le doigt sur tout ce qui va mal. C'est l'avantage des crises, c'est que ça crée un effet de loupe saisissant qui permet de voir de manière encore plus criante une réalité qui en fait existait déjà avant. Et dans le cas des personnes sans chez soi, sans abri, que je préfère même, je profite de ces tribunes pour les renommer autrement. Sachez, mesdames et messieurs, que personne n'apprécie d'être défini de manière négative, comme une personne sans papier, une personne sans chez soi, une personne sans abri, une personne précaire. Ces définitions sont extrêmement mal vécues par les personnes concernées. Et c'est pour ça que nous avons avancé. Et là, je vais mettre en difficulté les interprètes. Donc, n'essayez pas de traduire, ça ne va pas être possible. Mais je vous préviens, on a développé un acronyme qui est le mot « immense ». Et le mot « immense », c'est l'acronyme. Et on le décline dans d'autres langues. On n'a pas toutes les langues européennes, je fais ici un appel. « Immense », c'est l'acronyme de « individu », donc « IMM », etc. « Individu dans une merde matérielle et énorme, mais non sans exigence. Donc nous travaillons avec des immenses, nous sommes ici pour venir en aide, travailler avec les immenses. Et il faut dire les choses comme elles sont, Monsieur le Président. Ce qui se passe avec cette crise n'a pas de sens. Pourquoi tout d'un coup c'est ce déferlement? Nous sommes ici pour vous remercier, mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière la crise? Il y a une crise sanitaire. Qui dit crise sanitaire dit danger de mort. Très bien. Sachez que ce danger de mort existait pour notre public, les immenses, bien avant la crise sanitaire. Pour les personnes qui ont de longues années de vie en rue, à Bruxelles, en tout cas, leur espérance de vie est inférieure à 50 ans. Donc, de deux choses l'une, ou bien là, ce sont des êtres humains comme nous et vous, ou pas. Si c'est le cas, et je sais que vous le pensez tous, alors il n'y a aucune raison de mettre tout d'un coup aujourd'hui plein d'aide, plein de bonne volonté, etc. C'est bien sûr admirable. On n'a pas assez de mots pour remercier les donateurs, les bénévoles, l'équipe, etc., etc. Mais je crois que le message le plus important, de profiter de la crise pour dire ce qu'elle révèle, à savoir que la situation des personnes sans chez soi en Europe est catastrophique. Je vous donne juste un chiffre. Elle a, c'est le chiffre pour toute l'Europe, une augmentation du nombre de personnes sans chez soi, une nombre d'immense, en 10 ans, augmenté de 70%. À Bruxelles, elle a augmenté en 10 ans de plus de 150%. Donc la région Bruxelles-Capitale est un très mauvais élève. Or, il y a des pays en Europe qui le démontrent, je pense bien sûr à la Finlande, qui démontrent que quand on est soucieux des biens publics et des finances publiques, il y a une alternative à ce qui est le modèle dominant aujourd'hui, à savoir de penser qu'il y a une espèce de fatalité multimillénaire, à savoir il y aura toujours des personnes à la rue, ça se trouve dans la Bible, il y a toujours les paumés, les ratés, les voilà. C'est une fatalité, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pauvres personnes? Il y a une autre manière de voir les choses, qui est de dire que cela coûte un argent fou de maintenir en survie des personnes pendant des années et des années à la rue. Je ne vais pas vous faire la démonstration, c'est en fait le bon sens. Et qu'est-ce qu'ont compris certains pays, certaines villes, et notamment surtout la Finlande en Europe, où, qui est le seul pays où le nombre de sans chez soi a diminué et approche le zéro, c'est que reloger une personne directement quand elle tombe à la rue et lui trouver un logement est infiniment moins cher que d'attendre qu'elle se fragilise. Parce que si elle tombe à la rue, c'est qu'elle est déjà très fragilisée. Et donc la violence de la vie à la rue fait que sa dégradation, si on peut parler ainsi, va se passer à une vitesse faramineuse. Donc ce n'est plus possible aujourd'hui. La Finlande, on parle de l'Europe, la Finlande le montre, la fin du sans-abrisme est possible. C'est même économiquement, je ne parle pas de l'aspect humain qui se passe de commentaires, économiquement, c'est même rentable. Et donc, le sans-abrisme, l'immensité, est un choix politique, une décision politique. Et nous sommes beaucoup à penser que c'est en fait plus que ça encore, c'est un choix de société, voire même un crime contre l'humanité. Je suis personnellement persuadé que dans quelques siècles, on parlera du sans-abrisme comme on parle aujourd'hui de l'esclavage. Comment est-ce qu'on a pu, au XXIe siècle, laisser des gens mourir comme ça dans la rue ou vivre dans des conditions d'une indignité terrible. Ma conviction profonde, c'est qu'il n'est peut-être plus tellement certain pour tout le monde qu'il s'agit de personnes comme vous et moi. Peut-être qu'il se serait une autre race de personnes. Et j'en veux pour preuve tous les dispositifs qui sont mis en place, et Doucheflux en fait partie, donc je ne veux pas cracher dans la soupe, mais tous les dispositifs se concentrent sur des besoins. Les besoins les plus élémentaires, manger, boire, dormir, etc. Ça veut dire qu'on réduit la personne à des besoins, et jamais on ne s'intéresse à ses désirs. Or si une personne est limitée à ses besoins, c'est le début d'un phénomène contre lequel il faut tous lutter, qui est l'animalisation de ces personnes. Finalement, leurs rêves, leurs désirs, tout ça n'est peut-être pas très important. Ce sont des personnes dont il faut limiter le taux de mortalité autant que faire se peut, et ça s'arrête là. En fait, il faut faire beaucoup, beaucoup plus. Et je vous le répète, c'est économiquement rentable. Donc c'est un choix de société. Ce n'est pas une fatalité. On peut décider. Et le mouvement Droit à un Toit, qui est né d'ailleurs chez Doucheflux, qui représente une centaine d'associations, s'est donné comme objectif que 2030, c'est un objectif tout à fait réalisable, qu'il n'y ait plus une seule personne sans chez soi à Bruxelles en 2030. Mais ce n'est pas avec les politiques que nous avons maintenant qu'on va y arriver. Il faut vraiment un changement de mentalité. Il faut le décider un jour, se regarder droit dans les yeux et se dire, OK, maintenant on y va ou on n'y va pas. Sinon, on mettra toujours forcément le paquet sur ce qu'on appelle l'urgence, à savoir comment rendre la vie la survie des personnes dans la rue la moins inhumaine possible, et on ne mettra pas le paquet en même temps sur la prévention, tout faire pour que les personnes qui risquent de tomber à la rue ne tombent pas à la rue. Il y a très très peu qui est fait à ce niveau-là. Et bien sûr, attaquer, ça je parle ici pour la région Bruxelles-Capitale, le problème du marché immobilier, qui est juste purement criminel, il n'y a pas d'autre mot, à savoir qu'il n'y a pas assez d'appartements à loyer abordable à Bruxelles. Alors nos travailleurs sociaux font un travail fantastique pour essayer de remettre le pied à l'étrier des personnes, mais s'il y a derrière, il n'y a pas d'appartement, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien, c'est bien sûr, ça ne sert pas à rien. Une toute dernière chose, si vous me laissez encore une minute, je vois que vous me laissez encore une minute, Monsieur le Président. Il y a une chose très importante qui s'est... Douce Flux a été la première association qui a lancé, un peu sans le savoir, on était les premiers, une occupation d'une auberge de jeunesse, donc une sorte d'hôtel, où sont confinés depuis exactement un mois, jour pour jour, une douzaine de personnes. Et ce qui se passe là, le miracle de ce qui se passe là, est aussi extrêmement instructif sur la situation de ces personnes. À savoir que l'assistante sociale qui gère la situation de ces personnes et avec ces personnes nous le dit tous les jours, la qualité du travail, c'est-à-dire les pas en avant que ces personnes peuvent faire, est sans commune mesure avec la situation avant, lorsque ce travail social se fait en rue ou se fait dans une file d'attente devant un bureau. Parce que, bien sûr, lorsque vous avez la clé de votre chambre dans votre poche, vous avez bien dormi, vous avez la sécurité, vous avez la certitude que jusqu'au 30 juin, au moins, vous serez là dans ce lieu. Tout d'un coup, ça change dans la tête. On n'est plus dans de la survie, on peut commencer à penser pas uniquement où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais manger demain, etc. Ces questions avilissantes, on peut commencer à se remettre dans une perspective d'un avenir. Et donc, comme disait Stéphane en lançant ce tour de piste, le confinement devrait rester le plus longtemps possible. Mais pour ça, il faut passer à la vitesse supérieure, en tout cas en région Bruxelles-Capitale, et réquisitionner les hôtels et les auberges de jeunesse. Parce que sur base volontaire, ça se fait à une échelle beaucoup trop basse. Je vois votre sourire, Monsieur le Président, que j'ai dépassé le temps imparti. Je vous remercie de votre attention. Et donc, j'invite officiellement donc, le Parlement européen à arrêter de parler d'immenses, de sans-abri, on dit les immenses.
Facile quand deux sont divisés et qu'un a décidé de baisser le rideau. Une chose est sûre, il n'y a plus rien à faire ensemble. Comment se peut-il que l'on puisse être tendre et donner à l'autre assez d'amour, d'émotion pour combler l'océan de tristesse qui les garde ensemble. L'amour qui commence est facile à mesurer, le jour du plaisir, la nuit l'aventure. Chaque matin était une chose à partager ensemble. L'amour quand il croit est plein de surprises. La température qui monte et qui monte, et là on prend feu, ça se fait toujours ensemble. Qui succède au début, et tout doucement c'est le rêve qui explose. Une promesse se brise, quelques mots sont dits ensemble. La vie n'est pas facile quand deux sont divisés et qu'un a décidé de baisser le rideau. Une chose est sûre, il n'y a plus rien à faire ensemble.